Merci Rémi pour cet amplifié journal d'actualité que vous pouvez retrouver en direct un jeudi sur deux à 20h sur transistor.fr. Il est 21h passé de 1 minute et maintenant je ne sais pas si on nous écoute encore en cafette ou si le DSM SSSH recouvre déjà nos voix de chant paillard ou de crépitement de fromage, mais nous allons un peu tempérer l'ambiance pour finir puisque nous passons à notre émission de lecture « Les yeux ont des oreilles », émission traditionnellement présentée par notre vice-présidente Eva, dont c'était d'ailleurs l'anniversaire hier. Joyeux anniversaire Eva. Mais c'est Valentin qui anime Lio aujourd'hui. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Robin. Et donc, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous en direct de votre émission de lecture à voix haute, Les yeux ont des oreilles. Et oui, l'hiver est là avec son plafond nuageux, gris et humide. Vous manquez peut-être de vitamine D. C'est pourquoi nous vous proposons ce soir une sélection de textes consacrés à la lumière. Des ondes lumineuses de toutes sortes qui se proposent d'être écoutées grâce à Transistor. Éblouissement ou dévoilement, la lumière n'en finit pas de nous surprendre. Source de vérité ou instrument de mise en scène, naturel ou artificiel, nous vous proposons une diffraction du phénomène à partir des lectures de ce soir proposées par Maë, Sarah et Robin. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Et commençons par un petit texte de mise en garde en forme de fable que proposait Villiers de l'Isle-Adam dans Histoire insolite intitulé « Les plagiaires de la foudre ». Une manière de rappeler avec cynisme que, si on peut singer les bruits les plus terribles, la lumière reste garante de vérité ou de cruauté.
Naturellement attentifs aux bruits et aux voix que leur propre est d'imiter, les perroquets, se trouvant par hasard si haut placés qu'ils n'entendaient guère que les orages, en avaient étudié, au fond d'un spécial silence, les vibrations profondes. Si bien qu'aujourd'hui, tous, avec un ensemble que le terroir sonore et l'irradiation plongeante des sons rendaient inquiétants, contrefaisaient, à s'y méprendre, le fracas de l'électricité dans l'étendue, la plainte des longues rafales, les ruissellements de l'averse au travers des feuilles. Quant à la vertu même de l'orage, à ce qui en anime la réalité, quant à l'éclair, enfin, les perroquets, par dédain sans doute, ne le reproduisaient pas. Mais à la longue, cette déité aux yeux discrets et sagaces, qu'on nomme la force des choses, résolut, au fond des hasards de sa vague pensée, de confronter les perroquets avec leur bruit quand même sacrilège, en les y ensevelissant. Elle trouva, comme toujours, son moment pour purger ce lieu de lumière de leur écœurant fléau. Par un soir de feu, de trombes et de ténèbres, un soudain cyclone enserra l'île. Flamboyant sous ses ailes pluvieuses, il la fit d'abord sonner à coups de tonnerre. Puis, se ruant à travers la forêt, qu'effondrèrent ses rafales, la franchit, accrochant de toutes parts aux branches fracassées, mille crins de sa chevelure d'éclairs. Vu l'imprudente hauteur de l'arbre, un entrecroisement de foudre se rencontra sur l'eucalyptus. Le lendemain, dès l'aube brillante, dont le vaste de l'azur lavé s'éblouissait, les animaux, rassérénés par la calmie, se répandirent, comme naguère, sous les frondaisons lourdes encore de la pluie diluviale. Et quelques-uns, en passant au pied du tronc foudroyé qui fumait dans la clairière, aperçurent de tous les côtés, gisantes sur les gazons, plusieurs centaines de pattes carbonisées. Vestiges tôt disparus des terrorisants rabat-joie. L'enveloppement d'un même trépas avait donc été, pour ceux-ci, l'unique témoignage qu'ils se fussent jamais donné de leur fraternité. Encore que sans le vouloir et à leur insu. Cette fois, l'éclair ne leur avait même pas laissé le temps de le mépriser. Le tonnerre avait grondé pour de vrai.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges.
Place à présent aux lumières de l'automne, aux côtés de Ducôté de chez Swann. La plume de Marcel Proust nous invite à la découverte du bois de Boulogne pour les saisons, l'heure et le jeu de lumière associés dévoile et révèle. Éloigné du lieu de nature au sens propre en raison de l'impression de mise en scène, le bois de Boulogne se révèle davantage comme un jardin public décor des ballades féminines. Un jardin particulièrement sublimé par la lumière, par le jeu de lumière qui déconstruit l'unité apparente, révèle la mise en scène et l'atomise en de nouveaux décors pour de nouvelles scènes.
Cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice est, dans le sens zoologique ou mythologique du mot, un jardin. Je l'ai retrouvé cette année comme je le traversais pour aller à Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre où, à Paris, dans les maisons, la proximité et la privation du spectacle de l'automne qui s'achève si vite sans qu'on y assiste, donne une nostalgie, une véritable fièvre des feuilles mortes qui peut aller jusqu'à empêcher de dormir. Dans ma chambre fermée, elle s'interposait depuis un mois, évoquée par mon désir de les voir, entre ma pensée et n'importe quel objet auquel je m'appliquais. Et tourbillonnées comme ces taches jaunes qui parfois, quoi que nous regardions, dansent devant nos yeux. Et ce matin-là, n'entendant plus la pluie tomber comme les jours précédents, voyant le beau temps sourire au coin des rideaux fermés, comme au coin d'une bouche close qui laisse échapper le secret de son bonheur, j'avais senti que ces feuilles jaunes, je pourrais les regarder traversées par la lumière, dans leur suprême beauté. Et ne pouvant pas davantage me tenir d'aller voir des arbres qu'autrefois, quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminée, de partir pour le bord de la mer, j'étais sorti pour aller à Trianon en passant par le bois de Boulogne. C'était l'heure, et c'était la saison où le bois semble peut-être le plus multiple, non seulement parce qu'il est plus subdivisé, mais encore parce qu'il l'est autrement. Même dans les parties découvertes où l'on embrasse un grand espace, ça et là, en face des sombres masses lointaines des arbres qui n'avaient pas de feuilles, ou qui avaient encore leurs feuilles de l'été, un double rang de marronniers orangés semblait, comme dans un tableau à peine commencé, avoir seul encore été peint par le décorateur, qui n'aurait pas mis de couleur sur le reste, étendait son allée en pleine lumière pour la promenade épisonique de personnages qui ne seraient ajoutés que plus tard. Plus loin, là où toutes leurs feuilles vertes couvraient les arbres, un seul, petit, trapu, entêté et têtu, secouait au vent une vilaine chevelure rouge. Ailleurs encore, c'était le premier réveil de ce mois de mai des feuilles et celle d'un impelopsis, merveilleux et souriant comme une épine rose de l'hiver. Depuis le matin même, était tout en fleurs. Et le bois avait l'aspect provisoire et factice d'une pépinière ou d'un parc où, soit dans un intérêt botanique, soit pour la préparation d'une fête, on vient d'installer, au milieu des arbres de sortes communes qui n'ont pas encore été déplantées, deux ou trois espèces précieuses, au feuillage fantastique, et qui semblaient autour d'eux réserver du vide, donner de l'air, faire de la clarté. Ainsi, c'était la saison où le bois de Boulogne trahit le plus d'essences diverses et juxtapose le plus de parties distinctes en un assemblage composite. Et c'était aussi l'heure. Dans les endroits où les arbres gardaient encore leurs feuilles, Ils semblaient subir une altération de leur matière à partir du point où ils étaient touchés par la lumière du soleil. Presque horizontale le matin. Comme elle le redeviendrait quelques heures plus tard. Au moment où, dans le crépuscule commençant, elle s'allume comme une lampe, projette à distance sur le feuillage un reflet artificiel et chaud et fait flamber les suprêmes feuilles d'un arbre qui reste le candélabre incombustible et terne de son faîte incendié. Ici, elle épaississait comme des briques et comme une jaune maçonnerie persane à dessin bleu, cimentait grossièrement contre le ciel les feuilles des marronniers. Là, au contraire, les détachait de lui, vers qui elles crispaient leurs doigts d'or. À mi-hauteur d'un arbre habillé de vigne vierge, elle greffait et faisait épanouir, impossible à discerner nettement dans l'éblouissement, un immense bouquet, comme de fleurs rouges. Peut-être une variété d'œillets. Les différentes parties du bois, mieux confondues l'été dans l'épaisseur et la monotonie des verdures, se trouvaient dégagées. Des espaces plus éclaircis laissaient voir l'entrée de presque toutes, ou bien un feuillage somptueux la désignait comme une oriflamme. On distinguait comme sur une carte en couleur Armenonville, le Précatelan, Madrid, le champ de course, les bords du lac. Par moments apparaissaient quelques constructions inutiles, une fausse grotte, un moulin à qui les arbres en s'écartant faisaient place ou qu'une pelouse portait en avant sur sa moelleuse plateforme. On sentait que le bois n'était pas qu'un bois, qu'il répondait à une destination étrangère à la vie des arbres. L'exaltation que j'éprouvais n'était pas causée que par l'admiration de l'automne, mais par un désir. Grande source d'une joie que l'âme ressent d'abord sans en reconnaître la cause, sans comprendre que rien au dehors ne la motive.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là pareil à la feuille morte.
Kessel, dans son roman Le Lion, nous entraîne dans un crépuscule d'Afrique, dans des paysages où la lumière est sauvage et porte jusqu'aux pentes du Kilimandjaro. Il n'y a plus qu'à se laisser porter et à oublier.
Je regardais le soleil. Il me restait au moins une heure de loisir avant de me rendre au bungalow des Bulits pour la cérémonie du thé. Que faire de ce temps? Il n'y avait plus de brume, de chaleur. Le ciel n'était que pureté, légèreté. Les lumières et les ombres avaient repris leur jeu à la surface du sol et contre la paroi immense de la montagne. Sur le sommet, en forme de table, fantastique, dalle plate et blanche comme un autel dressé pour ses sacrifices à la mesure des mondes, la neige immobile, la neige éternelle commençait à vivre d'un bouillonnement mystérieux et devenait une écume tantôt creusée, tantôt crêtée de vermeil, d'orange, de nacre et d'or. On ne voyait plus de bêtes au fond de la clairière. Les oiseaux se taisaient. Les singes avaient cessé leur rumeur. Pas une branche, pas une aiguille ne bougeait sur les arbres, pas une ronce le long des sentiers. C'était l'instant de silence, de repos, de halte, et qui prenait ici toute sa force auguste, où le crépuscule, sans se montrer encore, annonçait de la sorte son approche, et où le soleil semblait suspendre son mouvement avant de céder les formes et les êtres aux ailes obscures du soir. « Quels sont les ordres, monsieur ?» demanda Bogo. Ce ne fut pas le son de sa voix qui me fit tressaillir, mais le fait qu'elle me rendait à la conscience, à la présence de ma propre personne. Il y avait eu auparavant une minute, ou une seconde, ou même une fraction de seconde, que sais-je et qu'importe, durant laquelle j'avais cessé d'exister dans les misérables limites humaines et perdues, confondues dans l'univers sans fin, j'étais devenu cet univers et cet univers était moi-même. Mais Bogo avait parlé, et je me retrouvais d'un seul coup raidi, rétréci à ma seule substance et comme recousu malgré moi dans ma peau, et forcé de commander, d'agir, de faire quelque chose. Et que faire qui fût en accord avec la brousse et les neiges d'Afrique alors que sur elles se penchait le soir ?
Qui coule en mon âme et mon sang, près de toi. La lumière, c'est mille soleils inconnus qui m'aveuglent l'enfant à ma vue. Sur un univers plus grand, les portes s'ouvrent à deux battants. Pour moi, et quand tu es dans mes bras, la lumière, irradiante de tous ses feux, fait que même en fermant les yeux, je
roman initiatique qui entraîne trois adolescents, le poète, le guerrier et l'amant, hors de leur Sibérie natale, au temps du fleuve Amour, d'Andrei Makine, joue sur la lumière pour marquer les souvenirs de chacun. La plaine étincelante de neige, les lueurs rougeâtres et mystiques des premières fois, l'écran électrisant du cinéma, tout s'harmonise entre son, couleur et lumière. L'Incipit déploie un camaïeu de teintes translucides, mêlé aux notes de piano, et aux caresses effrénées. Bienvenue dans l'univers de l'amant.
Son corps, ce cristal amolli et brûlant sur la canne d'un souffleur de verre. Tu m'entends bien, Outkin ? Celle que j'évoque dans notre conversation nocturne par-delà l'Atlantique va s'épanouir sous ta plume fiévreuse. Son corps, ce verre à l'éclat chaud du rubis, deviendra mat. Ses seins se raffermiront en se colorant d'une roseur lactée. Ses hanches porteront un essaim de grains de beauté, traces de tes doigts impatients. Parle d'elle, Outkin. La mer toute proche se devine dans la luminosité du plafond. Il fait encore trop chaud pour descendre à la plage. Tout somnole dans cette grande maison perdue au milieu de la verdure. Un chapeau de paille au large bord qui luit sous le soleil, sur la terrasse, dans le jardin. Des cerisiers tordus aux branches immobiles, aux troncs dégoulinants de résine fondante. Et puis, ce journal vieux de quelques semaines qui transcrit dans ses échos la fin de notre lointain empire. Et la mer, incrustation de turquoise entre les branches des cerisiers. Je suis allongée dans cette pièce qui semble chavirer à travers la large baie vitrée dans l'étendue marine étincelante. Tout est blanc, tout est soleil. Sauf la grande tache noire du piano, exilée des soirées pluvieuses. Dans un fauteuil, elle. Encore un peu distante, nous ne nous connaissons que depuis 2 semaines. Quelques brassées d'écume, quelques promenades du soir dans l'ombre épicée des cyprès. Quelques baisers, c'est une princesse de sang, tu imagines, Outkin. Même si elle s'en moque royalement. Je suis son ours. Son barbare venu du pays des neiges éternelles. Un ogre, ça l'amuse. En ce moment, cela l'ennuie de rester dans cette longue attente de l'après-midi. Elle se lève, s'approche du piano, ouvre le couvercle. Les notes lentes s'éveillent comme à contre-cœur, palpitent, tels des papillons aux ailes alourdies de pollen, s'enlisent dans le silence ensoleillé de la demeure vide. Je me dresse à mon tour, avec une agilité de fauve. Je suis tout nu. Me sent-elle approcher ? Elle ne se retourne même pas quand j'enlace ses hanches. Elle continue à noyer dans l'air liquéfié par la chaleur les notes longues, paresseuses. Elle s'interrompt juste pour un cri, quand soudain elle me sent en elle, et recherchant l'équilibre, prise d'une panique heureuse, elle s'appuie sur le clavier sans plus regarder les touches. Des deux mains, doigts en éventail, un majeur tonitruant, ivre, jaillit, et ses accords sauvages coïncident avec ses premiers gémissements. La transperçant, je la pousse, je la soulève, je lui ôte son poids, son seul point d'appui, ses mains qui se déplacent de nouveau sur le clavier. Un accord plus brillant et plus insistant encore. Elle est toute galbée maintenant, la tête rejetée en arrière, le bas du corps abandonné à moi. Oui, frémissante, ondoyante comme une masse brûlante sur la canne d'un souffleur de verre. Les gouttelettes de sueur rendent transparent cet ovale de chair ondulant sous mes doigts. Et les accords se succèdent de plus en plus saccadés, haletants. Et ses cris se répondent dans une assourdissante symphonie de plaisir. Soleil, clameur des cordes, éclat sonore de sa voix, entre sanglots bienheureux et appels indignés. Et quand elle me sent détonner en elle, la symphonie se brise en un jet de notes aiguës et fébriles, fusant sous mes doigts. Ses mains tambourinent en s'accrochant aux touches glissantes, comme si elle s'agrippait à l'invisible bord du plaisir qui déjà se dérobe à la chair. Et dans ce silence encore bourdonnant de mille échos, je vois son corps transparent s'emplir lentement de la matité hâlée du repos.
Épisode de Les yeux ont des oreilles. Vous avez pu entendre au cours de l'émission des textes de Villiers de l'Isle-Adam, Marcel Proust, Joseph Kessel et Andrei Makin. Merci à Sarah, Robin et Maë pour leur lecture. À très bientôt sur Transistor et d'ici là, bonne fête des Lumières à Lyon.
Merci à toi Valentin pour ce lieu et des oreilles comme un préambule de notre week-end lyonnais. Donc...